sur les routes de la musique. Maintenant, c'est avec vous, André Manoukian. Ce matin, on parle des paysages sonores de la musique de la Terre.
Il est des territoires magiques sur notre planète qui n'ont pas besoin des hommes pour produire la musique la plus belle du monde. Nous baignons en permanence dans un fluide duquel nous tirons une foule d'informations. Mais souvent, il nous faut faire un effort pour que nous en prenions conscience. Ce fluide, cette substance qui nous enrobe, s'appelle le paysage sonore. Cette notion a été inventée par un compositeur écologiste canadien, Raymond Murray Schaeffer, né en 1933 en Ontario. Il nous renvoie à la banalité des sons qui nous entourent, le bruit de la rue, le battement de la pluie contre une vitre, le hurlement du vent pendant la tempête ou le clapotis d'une vague qui s'échoue sur la plage de galets d'un lac de montagne. Cette banalité des sons qui nous entourent est devenue l'ultime graal des compositeurs. Le rêve d'Olivier Messiaen, qui était fasciné par les oiseaux, était de retranscrire le chant des premiers musiciens du monde, comme il les appelait. Et si la musique ultime était celle de la Terre, la géophonie ? La nature est sonore, elle résonne des vibrations du monde. Après tout, le seul milieu dans lequel le son ne se transmet pas est le vide, et nulle vie ne peut s'y développer. Pas de son, pas de vie. Il faut de l'air pour que l'onde sonore existe, se propage, nous fasse vibrer les tympans et nous enchante. L'instrument absolu pourrait être la harpe éolienne que l'on trouve dans le livre de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Cette variation psychanalytique sur le thème de Robinson Crusoe raconte le parcours du marin qui, dans un premier temps, a servi l'île déserte sur laquelle il est échoué, en la cultivant et en domestiquant les animaux sauvages. Puis, dans un second temps, il découvre, grâce à Vendredi, un jeune Indien qu'il sauve d'un sacrifice, une manière harmonieuse de vivre dans la nature, sans avoir besoin de la dominer ni chercher à l'exploiter, simplement en jouant avec. Vendredi vient de défier un bouc et il l'a tué. Eh bien, il va le faire chanter maintenant. La tête de bouc nettoyée va servir de caisse de résonance. Entre ses cornes en forme de lyre, il tend 12 boyaux. Avec un sens inné de la musique, il les accordait afin qu'elles puissent retentir toutes ensemble sans discordance. Car il ne s'agissait pas d'une lyre ou d'une cithare dont il aurait lui-même pincé des cordes, mais d'un instrument élémentaire, d'une harpe éolienne dont le vent serait le seul exécutant. Bernie Krause, musicien américain, naturaliste et docteur en bioacoustique, raconte lui dans son livre « Le grand orchestre animal » son expérience sonore la plus impressionnante. Un jour qu'il chassait des sons dans l'Oregon, aux alentours du lac Walowa, il rencontre un descendant indien de la tribu des Nez Percés, Angus Wilson, qui le conduit auprès d'un lac sacré, dans une sorte de combe. Nous étions accroupis, tremblants de froid. Au bout d'une demi-heure, le vent a commencé à s'engouffrer dans la vallée, gagnant progressivement en force. C'est alors que des sons qui semblaient jaillir de grands orgues géants nous ont brusquement engloutis, un alliage de tons, de soupirs et de plaintes qui mettaient en résonance d'étranges rythmes. Devant nous se dressait un bouquet de roseaux de différentes longueurs que le vent et le mauvais temps avaient brisés au fil des saisons. En oscillant dans le vent, ceux dont la cime était ouverte émettaient un son retentissant à mi-chemin entre les grands orgues et une gigantesque flûte de pan. Angus tira un couteau, choisit et coupa un tronçon de roseau. Il y perça quelques trous, fit une entaille et se mit à jouer. Vous savez maintenant d'où vient notre musique. Mais c'est de là que vient aussi la vôtre.
Quel voyage musical ! Merci André Manoukian.